Bruno Therrien, IG Gestion de patrimoine. Rebonjour.
Rebonjour, Steve.
Question d'auditeur ce matin, en fait, d'auditrice, je devrais dire, conjoint de fait d'un point de vue financier, ça veut dire quoi? Quels sont les avantages, les inconvénients de tout ça?
Oui, puis c'est vraiment mélangeant, Steve, parce qu'il y a plusieurs volets qu'on doit regarder. Il y a le point de vue fiscal, il y a le point de vue légal, le point de vue successoral, puis il y a des différences au niveau du provincial puis au niveau du fédéral. Fait que je vais essayer de démêler ça un petit peu là, parce qu'il y a des impacts qui sont très importants. Et je te dirais, Steve, malheureusement, souvent, on rencontre les gens, on leur pose des questions et ils n'ont pas les réponses. Puis c'est des réponses de base. Donc, imaginez s'il arrive quelque chose, une séparation, un décès, il y a des petites surprises. Là. Donc, je te donne juste un exemple. Souvent, que les gens, ah, ben ça fait 20 ans qu'on reste ensemble. Si je décède, ça va aller à elle ou à lui. Non.
C'est pas comme ça que ça marche.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a le Code civil du Québec qui ne reconnaît pas à la base les gens qui sont en position de concubinage ou des conjoints de fait. Ça, c'est le Code civil du Québec. Donc, pas le droit, par exemple, en cas de séparation, à une pension alimentaire pour le conjoint ou la conjointe. Et on n'a pas non plus de droit sur la succession de notre conjoint ou conjointe qui décède. Donc ça, c'est des nuances qui sont très importantes. Peu importe le temps, là, ça peut faire un an, 5 ans, 10 ans, 30 ans que vous vivez ensemble. Malheureusement, le Code civil du Québec ne reconnaît pas, contrairement à d'autres provinces au Canada qui sont majoritairement anglophones, qui sont sur le common law. Ben eux, souvent, vont reconnaître le conjoint de fait comme une personne qui a certains droits. Il faut dire qu'on a un couple sur trois au Québec qui vit en concubinage ou qui sont des conjoints de fait. Donc, c'est une portion qui est très importante. Et vraiment, là, si on vit ensemble, donc conjoint de fait, sans être marié, ben là, il faut comprendre les nuances. Donc, je vais commencer avec le point de vue fiscal, parce que ça, c'est très, très, très important. Donc, en fiscalité, là, être conjoint de fait, là, c'est pas quelque chose là, qu'il faut prendre à la légère, parce que il y a plusieurs programmes sociaux qui sont fondés sur le revenu du ménage. Donc, les deux conjoints, là. Par exemple, le crédit d'impôt pour la solidarité à Québec, il y a le crédit pour la TPS à Ottawa. Donc, on prend l'ensemble du revenu des deux et c'est là, à ce moment-là, qu'on va établir ce que vous avez droit au niveau des crédits. Donc, une personne seule qui a droit à ces programmes-là, bien, va se faire couper lorsqu'elle va acquérir le statut de conjoint de fait. Puis, c'est quand on acquiert le statut de conjoint de fait, c'est après un an qu'on vit de façon continue à la même adresse. Donc, c'est comme un automatisme. Pas avant, pas après. Au moment où ça fait un an, vous êtes considéré comme conjoint de fait. Puis, pour une personne qui est monoparentale, là, ben, l'impact, par exemple, sur les allocations familiales, c'est énorme. Mais si vous essayez de cacher ça, de cacher la vérité, c'est considéré comme de la fraude et ça pourrait vous coûter pas mal d'argent.
Puis donc, on peut revenir en arrière aussi.
Oui, absolument, puis avec des pénalités. Puis comme je dis, si on vous accuse de fraude, ben c'est
vous êtes dans le trouble pour autre chose.
Vous êtes dans le trouble. Ensuite, on parle de séparation et succession. Parce qu'en cas de séparation, le statut de conjoint n'a aucune signification. Que, comme je le disais tantôt, là, que ça fasse 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a aucune obligation qui va lier les deux parties. Chacun va partir avec ses affaires, qu'importe s'il y en a un qui n'a rien puis l'autre a tout. Là. Souvenez-vous là, du jugement d'Éric contre Lola là, qui s'est ramassé en Cour suprême. Il y a 5 juges pour, 4 juges contre, donc c'était quand même assez départagé, qui ont finalement conclu que non, le fait de ne pas être marié fait en sorte que bon, c'est un choix que les gens ont fait et chacun part avec ses affaires. C'est plate, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de pressions qui sont faites actuellement pour essayer de changer les choses, mais pour l'instant, le Code civil n'a pas changé là-dessus. Donc, c'est la même chose en cas de décès, sans testament, qui dit le contraire. Si vous n'avez pas de testament, bien, le conjoint survivant n'a aucun droit sur les actifs de son défunt amoureux. Tout va aller à la famille du défunt. Ce qu'il faut savoir, c'est le régime des rentes du Québec, la RRQ, puis le régime de retraite de compétences provinciales, ça va vous considérer comme des conjoints de fait après 3 ans. Donc, pour avoir droit, c'est plus long. À moins qu'il y ait eu un enfant qui soit né entre-temps, là, dans la période de 3 ans. Sinon, ça prend 3 ans. C'est le temps nécessaire pour avoir droit à la rente du conjoint en cas de décès. Mais par contre, dans les régimes de retraite à compétence fédérale, donc selon votre employeur, si c'est fédéral ou provincial, un an de vie commun va suffire. Donc, le conjoint a priorité sur les enfants pour toucher le contenu du fonds de pension, qu'importe ce qui est prévu dans le testament. Donc, vous voyez là, déjà la différence. Et je termine avec la bigamie fiscale. Est-ce que ça se peut, cette affaire-là?
Ben, voyons,
oui, ça se peut. C'est le cas d'une personne mariée qui est séparée sans être divorcée,
okay,
puis qui vit maintenant avec un conjoint ou une conjointe depuis plus d'un an. Donc, au décès, le contenu de son REER va pouvoir être transféré sans impact fiscal à deux personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle la bigamie fiscale.
Aïe.
Un cas particulier, mais qui arrive sûrement régulièrement. Donc,
la personne est séparée, mais pas complété le divorce.
Pas divorcée totalement, donc c'est ça. Fait que, bref, beaucoup de particularités. C'est important de savoir dans quelle situation vous êtes, c'est quoi les impacts,
oui,
peu importe ce qui peut arriver.
Et j'imagine que ça doit arriver dans la vie d'un conseiller financier.
Ah, c'est des questions qu'on reçoit tous les jours, Steve. Là. Ça, c'est des questions... Parce que les gens, à un moment donné, ne savent pas ou ne savent plus parce que, bon, je veux dire, tu restes avec ta conjointe, oui, ça fait X années, mais tu ne te poses pas des questions le matin quand tu te lèves, dire « Ah, si je décède... » Tu sais, donc, c'est ça. Ça fait partie de la planification financière de relever ces points-là avec les gens pour vraiment s'assurer que les gens au moins comprennent
exact.
Les impacts.
Le choix, ça leur appartient, mais au moins qu'ils soient conscients de ce qu'implique ce choix-là.
Effectivement.